soyez les bienvenus avec Eric Lacadou-Boudéli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Bonjour. Alexis Lossignol. Frédéric Siris.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passureau. Et notre invité, Nicolas Duvauchet. Oh
Nicolas.
Oui.
Ah, ça fait un verre.
Comment ça va, Nicolas?
Mais super bien.
On est ravis de vous accueillir. Nous allons parler de cette fiction qui passe ce soir sur Arte, La Forêt d'Argent, qui est l'adaptation d'un roman. D'ailleurs, quand on adapte, quand on joue, soit un personnage qui a existé ou pas loin, en tout cas, on va en parler avec l'auteur, Gaspard Koenig. Est-ce qu'on se rapproche de l'auteur? Est-ce qu'on lit le roman? Ou est-ce qu'au contraire, on subit, entre guillemets, que les indications du réalisateur?
Ouais, ça dépend des films. Mais là, moi, j'ai pas lu le bouquin là. Et puis oui, là, je me suis confié à Emmanuel Bourdieu. Voilà.
Vous êtes laissé porter.
Exactement.
Donc cette fiction qui est à la fois sur les temps modernes et à la fois une espèce de voyage intérieur de ce banquier de la banque européenne de développement.
C'est ça, exactement.
C'est ça,
exactement.
On ne fait pas d'investissement, madame. On fait du développement, madame.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Puis c'est un peu voilà comment il va se rendre compte un peu de ce que c'est en fait ce qui est devenu l'Europe, on va dire, hein. Pour moi, c'est...
Bon, il le sait un peu, mais il a un peu oublié, il a mis un peu sa carrière en retrait, en se disant je serais pas le jeune loup qu'on a espéré
ouais,
être
c'est
de
ça.
Moi.
C'est plutôt sa femme, mais d'ailleurs, qui...
Alors,
qui
le pousse un peu, ouais.
Mais le mécanisme, voilà, la notion de moralité associée à la notion d'investissement et de banque, c'est délicat.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr, oui, il est complètement tiraillé par ça, et puis il se rend compte, en fait, de la réalité, de ce qu'est la réalité, en se rendant en Roumanie, et voilà, le gap qu'il y a entre les investissements et la taille des investissements et eux, ce qu'ils gagnent et leur
pourquoi,
vie, et ce qu'est
voilà,
leur vie.
Pourquoi la Roumanie? Parce qu'il y a un enjeu de plusieurs millions ou milliards, que sais-je, de...
Millions,
d'accord, d'euros.
900.
Une autoroute.
On n'était pas loin, 900 millions. On n'était pas loin, quand même. Tu pourrais faire... Tu pourrais
Nagui, arrondir. Arrondir les virgules super. Nagui, je sais que tu es un gros producteur, mais sans patates, ça fait quand même beaucoup.
Arrondir.
Pour lui, c'est rien, lui, c'est un détail. Lui.
Une journée, non?
Hier, c'est son anniversaire.
C'est ça.
Oui,
donc, n'en parlons plus.
Et donc, qu'est-ce qu'on a?
Le projet était de construire une grande autoroute.
Une grande autoroute, c'est ça, voilà.
Traversante, comme ça, une pénétrante au milieu de la Roumanie qui peut faire du mal à ce pays. Détail extrêmement important, la nounou. Roxana, la nounou de la maison.
Et roumaine. Et d'origine roumaine.
Et voilà. Il va profiter de sa présence. Je dis bien profiter parce qu'au début, il a aucun sentiment. C'est simplement, elle est là, elle parle français, elle parle roumain, elle va m'aider, et puis on n'en parle plus, quoi.
Voilà, c'est ça. Ils partent en Roumanie tous les deux, et là, bon,
sa vie bascule un peu.
Lui se fait un petit film, je pense, quoi. Voilà.
Marina Pali et Julia Faure vous accompagnent dans cette fiction réalisée par Emmanuel Bourdieu avec de très belles images. On n'a pas forcément en tête les paysages de la Roumanie si on n'y est pas allé, en tout cas.
C'est magnifique. Hein.
Et cette fameuse forêt d'argent dont il est question,
forêt de boulot.
Qui rappelle un tout petit peu votre enfance. Ça aussi, on va l'évoquer. Est extrêmement bien filmé. C'est agréable. Ça passe ce soir. C'est sur Arte. Ça a déjà été disponible sur la VOD d'Arte, sur le site internet.
D'accord, je ne savais pas, mais
pendant quelques jours.
D'accord.
Et on a pu d'ailleurs en profiter. Mais d'abord, des questions concernant Nicolas Duvauchel. Dites-moi, s'il vous plaît, pour quelle raison s'est-il fait virer au bout de 10 jours d'une restauration rapide? Ouais, bagarre, mais avec qui?
Avec le cuistot.
Alexis, ouais.
J'ai vu les mains, et je pense que vous faites de la boxe, non?
Ah ouais.
Boxe taille.
Ouais, c'est vrai.
Alors je sais pas si vous en faisiez.
Belles mains de pianiste, oui.
Je sais pas si vous en faisiez à l'époque, mais vous êtes battu avec le manager.
Oui. Bah je travaillais dans une enseigne, voilà, qui était. Je travaillais chez les deux d'ailleurs, chez Quick et McDonald's, voilà. Je conseille à tout le monde cette expérience, voilà.
C'est
une magnifique
expérience.
Non, c'est vraiment dur. Et puis là, on se rend vraiment compte de ce qu'est le libéralisme, voilà. La production à tout prix.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Parce que faut être disponible tout le temps. On a une demi-heure.
On parle aux employés comme
ouais,
des,
on a une demi-heure pour manger. C'est une horreur totale. On arrive.
Il y a marqué fast-food à l'entrée quand même.
Tu la frises. Non, mais bon,
c'est énorme déjà une demi-heure pour manger.
Oui. les employés. Non, mais c'est vrai que c'est assez flippant. Et voilà, je me rappellerai toute ma vie. Et c'est vrai que ça me.
Lui aussi, apparemment.
C'est quoi? Il vous a mal parlé?
Oui, il a mal parlé. Puis ça faisait depuis le matin. Puis à 16h, j'ai explosé. Voilà, ouais. Non. Harcèlement, vraiment du harcèlement moral, quoi, au travail, quoi. C'était assez dur.
Vous aviez quel âge?
J'avais 18 ans.
Et bagarreur?
Je le
fus. De nature?
Je le fus. Voilà. Non, plus maintenant. Je va falloir 40 ans.
Apaisé.
C'est fini, voilà.
Complètement apaisé.
Une petite baston de temps en temps pour garder la forme.
Bon, voilà, ouais. Non.
Pour faire circuler le sang.
Souvenir de jeunesse. À quel moment de sa vie, Nicolas Duvauchel, s'est-il particulièrement ennuyé? Ça peut lui arriver.
Enfant?
Non.
À l'école?
Non, je vous demande
pas l'âge. Au cours de théâtre?
Non.
Quel endroit?
C'était des études, mais c'était de quoi?
Ah oui.
Hôtelière.
Médiation culturelle et communication.
Non.
Je parle en connaissance de cause, parce que vraiment, c'est le maître étalon.
Gestion, ça doit pas être passionnant tout le temps.
Ingénieur.
C'est un style d'études
qu'il a fait.
Au collège, au lycée, à la fac, c'est quoi?
Études particulières, marketing,
en CAP, je crois.
Ouais. C'est ça.
Donc là,
de quoi?
Vente.
Chaudronnerie. Trouvez-moi au moins le domaine, j'ai rien fait pour
l'instant. C'est un peu de vente.
Chaudronnerie.
C'est manuel? C'est manuel ou pas?
C'est mécanique auto.
Ça pourrait être utile pour le manager du fast-food en question.
Sanitaire et social.
Non.
Cuisine.
Diplomatie.
Ok, pharmacie.
C'est un pharmacie.
Préparateur en pharmacie. C'était pas pharmacien, mais voilà. Ah oui, je me suis bien fait chier. Faire des gélules toute la journée, c'était...
Faire des gélules et des suppos. Comment vous retrouvez là-dedans?
J'ai arrêté en première S, malheureusement, voilà, pour différentes raisons. Et après, ma mère m'a convaincu de reprendre les études et je suis allé faire un petit CAP employé en pharmacie que j'ai dû rester 3 mois là-dedans.
Que je conseille à tout le monde.
Voilà, exactement comme le McDo, c'est magnifique.
Ça fait partie des moments dans sa vie où on se demande qu'est-ce que
je fous là, quoi.
Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie, c'est ça?
On sait pas trop. C'est un peu le cas de beaucoup de jeunes,
le CAP assistant pharmacien, vous n'êtes pas dit, bon, je vais aller jeter un œil pour voir si c'est passionnant ou pas, ou si ça peut me plaire, parce que...
C'est parce qu'il y avait des étudiantes.
C'était pour trouver un truc pour
c'était
ma mère.
C'était par
rapport
pour faire plaisir à ma mère.
Tu aimes bien les pharmacies?
Ah bah ouais, moi j'adore les pharmacies, de toute façon, donc c'est un peu une passion dans la vie d'aller dans les pharmacies. Les parapharmacies et tout, donc j'aime bien les pharmacies.
Je crois que ton micro est ouvert.
Ouais, c'est vrai.
À quel moment de sa vie, Nicolas Duvauchel, a-t-il commencé à se faire tatouer? Je sais pas s'il a continué ou s'il s'est arrêté, mais en tout cas, il a commencé.
À la boxe.
Combat,
non. À sa majorité.
Non.
Papa,
non,
plus jeune, maternité, non, avant. Paternité, non. Avant.
C'est un rapport avec son métier.
Ah bah quand il a commencé
premier
le métier
rôle,
de comédien.
Premier film.
Non.
Quand
premier,
il était dans la Légion.
Non.
Premier casting.
Non.
Premier échec.
Premier sou.
Ouais, exactement.
Ah ouais, premier échec.
Quand vous avez pensé que votre carrière était foutue, que vous n'alliez pas continuer d'être comédien?
Ah oui, non, c'était...
Il y a trop de oui, il y a trop de non, là, je sais plus.
C'est vrai, même moi, c'est pas très clair pour moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça marchait pas forcément.
Ça a recommencé,
Non, oui, c'est vrai.
on est vendredi en même temps, c'est la fin de semaine.
C'est le tranquille.
Mais ça... c'est un moment où, oui, je me disais, je sais pas si je vais continuer, voilà.
On proposait plus rien, je me suis dit, allez...
Je vais me faire une manchette, tiens.
Mais quel rapport?
Aucun, non, parce que ça faisait longtemps, j'adore les tatouages, et donc je voulais m'en faire, et je me suis dit, non, c'est pas bien, t'es comédien, il y a des rôles que tu pourras plus faire, tout ça, et puis bon, au moment, j'ai dit, j'en ai rien à foutre.
On vous a déjà fait des remarques sur vos tatouages?
Oui,
vous en avez parlé?
Non, mais c'est vrai qu'on...
Ça se maquille, les tatouages?
Oui, mal, mais oui. Oui, mal, parce qu'après, il y a les poils qui sont maquillés et tout, c'est pas beau, quoi. Faudrait raser tout le bras, parce que si on maquille le bras et les poils sont maquillés aussi, ça fait une espèce de bras malade.
Mais donc, vous avez choisi quand même des endroits où le tatouage n'est pas forcément visible. Là, pour jouer le rôle du banquier européen, vous êtes en costard cravate tout le long. Donc
comme un yakuza, quoi. Rien de.
C'est ça.
Sur les mains, un petit peu,
rien ne voilà. Dépasse.
Voilà, exactement.
Mais donc, ça pose des problèmes, quoi, dans les scènes dénudées, dans les scènes.
Voilà, et puis, pour les films, on va dire, historiques, genre, pour le Grand Maulne ou des choses comme ça, qu'on a dû maquiller, parce que bon, le Grand Maulne, avec une manchette.
Avec le tatouage. À CDC,
les films d'été aussi, quoi. Du coup, je disais,
non, mais après, ça, pour certains rôles, ça peut aller maintenant. Ouais. Bon, c'est
vrai que pour les films de saison,
allez, dernière question. Un truc que fait Nicolas Duvauchel pour ne pas se faire, entre guillemets, reconnaître pour.
Casquette, lunettes,
cagoule.
Cagoule.
Je pense que casquette, lunettes, c'est le meilleur truc pour se faire reconnaître.
Une perruque.
Tu fais ça, casquette, lunettes et garde du corps, t'es sûr que les mecs t'arrêtent.
C'est la merde.
Même si t'es rien. Pardon? Non.
Non.
Non, non.
Suite à capuche.
Il passe incognito comment? Suite à capuche, non.
C'est bien femme.
On dit souhaite.
Oui. C'est bien femme, non?
Oui, ça, c'est la maquille. Bonne méthode.
Ouais. Alors, non, là, quand il s'habille en femme, tout le monde fait comment ça va, Nico? Parce que. On le reconnaît. Non.
Tu viens ce soir?
Comment est-ce que.
Incognito.
Il passe incognito.
Change de ville.
Son truc pour passer incognito.
Change de ville, de pays.
Il prend un accent.
On a parlé, Fred, juste avant de
débattre. Il perd du poids.
Il prend le RER.
Exactement. les transports en commun, ouais, le vrai. Métro, et là.
Ah, vous avez des sacrées conversations avant l'émission, tous les deux.
Ouais, écoute, hein.
Ouais, moi, je vends du
la
rêve.
Vie. La Nagui, il a dit c'est quoi le métro?
Bon, ce matin, je suis venu en taxi, on m'avait gracieusement offert un taxi. Donc,
c'est quoi le principe? Je comprends pas. En quoi prendre le RER fait qu'on vous reconnaît pas?
Non, je sais, j'ai jamais dit ça, moi. Non, moi, je prends le métro, juste, je prends le métro.
Non,
c'est plus rapide.
Ah oui.
Non, faut prendre le métro, c'est le meilleur moyen pour pas vous faire emboucaner. Vous dites là, on me reconnaît pas, on est dans le métro.
Oui, c'est vrai que souvent, bon, bref, non plus, je suis pas Jean du Jardin non plus. Les gens se disent pas, ah, c'est du Vauchel, voilà, tous les coins de rue, mais oui, c'est vrai que je suis assez tranquille, les gens sont
mais ça vous arrive
aimables. Non, oui, ça m'arrive. Ouais.
Et généralement, quand on vous aborde, d'ailleurs, c'est pour évoquer quel rôle, quel film.
On m'appelle Braco, Braco, les gens m'appellent Braco. Hey Braco.
Ah non, c'est vrai.
Les gens m'appellent comme ça, ouais, c'est un peu gênant à force, mais bon. Voilà, il y a beaucoup de gens. C'est vrai que ça touche beaucoup de gens. Donc,
vous êtes sur un trottoir ou sur un quai, vous entendez « Salut Braco ». Est-ce que vous retournez ou vous faites genre…
Je retourne, il tire.
J'ai les écouteurs.
Ça dépend comment c'est dit, ça dépend de mal chose, ça dépend de moi aussi comment je suis, quoi. Si je suis bien luné ou pas, quoi. Ça dépend de plein de choses.
J'avais dit dernière question, c'était un mensonge. Là, voici la dernière question. Encore. Que se passe-t-il la nuit, chaque veille de premier tournage pour Nicolas Dubouchet?
Il dort pas.
Exactement.
Ah, bien vu. C'était pas bien vu, bien vu. Ouais.
C'est de l'insomnie ou c'est
Ah oui, complètement.
Trac.
Ah oui, trac. Ouais, c'est souvent la nuit blanche. Ouais. Ouais, c'est pour chaque début de tournage, c'est dingue.
Quelle que soit l'importance du tournage.
Complètement. Complètement.
Quelque
c'est de découvrir l'équipe, de nouveaux rôles. Voilà, ça mouline.
Et avec le temps, avec l'expérience, vous êtes
pareil. Non, pareil, toujours pareil.
Donc, faut annoncer au réalisateur que la première journée doit pas être trop chargée non plus, quoi, parce que.
Oui, mais souvent,
ouais, un mec fatigué, quoi.
Ouais, ou souvent, ils sont pas très chargés. Hein, ouais. Souvent, les premières journées, le temps de se mettre dans le tournage, donc ça va.
Alors parlons de ce film, parce que c'est un film, La Forêt d'Argent, film réalisé par Emmanuel Bourdieu, donc avec Marina Pali et Julia Fort, entre autres. Il y a le petit aussi, le gamin Albert Carpentier, c'est ça?
C'est
qui,
ça.
Qui joue Georges, puisque vous êtes papa de ce petit garçon et... les affaires, la vie va extrêmement bien pour ce couple. On a l'impression d'ailleurs qu'ils vivent pas dans une maison, que c'est plutôt un truc de démonstration tellement. Il y a pas un journal qui dépasse, il y a pas un chiffon dans la cuisine.
Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça.
Maison témoin, quoi.
Ouais,
il y a rien.
En même temps, ils n'y vivent pas, en fait. Ils sont là le matin et le soir. Tu déranges pas trop la maison, finalement, quand tu y es jamais.
Mais il y a du champagne au frigo, quand même, en permanence.
Ah, bah oui,
bien sûr. Il y a du champagne, au frigo. Il y a, à chaque coin d'appartement, une carafe de whisky. Ou d'alcool.
Puis il y a un enfant
très bel
qui
appartement
traîne.
D'ailleurs, très bel appartement.
Très bel appartement. Et il y a un enfant qui traîne, ouais. C'est exactement ça. Mais l'enfant, il est totalement pris en charge par la nounou, à tel point d'ailleurs que dans les 5 premières minutes du film, on se demande si c'est la maman.
Ouais.
Elle s'occupe totalement de lui, au point où, comme elle est bilingue française, elle parle français et roumain, elle lui apprend
le roumain.
Le roumain.
Et il parle roumain, le petit.
Ouais.
C'est ça.
Non, mais c'est ce qui est trouble au début, d'ailleurs, on se dit, c'est le fils.
Oui, c'est voilà. Après, ils sont beaucoup pris par. Moi, j'ai eu des parents aussi qui travaillaient beaucoup, donc voilà, que je voyais pas beaucoup. Bon, j'ai pas eu de nounou, mais c'est vrai que c'est pas. Non. Non, toujours pas, j'avoue.
Alexis, fais gaffe, t'es le plus proche à portée de main quand même.
Ouais. Je sais me défendre.
T'as une tête à travailler au manuel.
J'ai un petit doute.
Tu sais te défendre, mais une fois par terre. Ouais.
Ça sera joli comme épitaphe, ça.
Il savait savoir se défendre.
Et pourtant. Et donc, cet homme d'affaires, enfin ce banquier qui est un peu. Il travaille dans cette banque européenne. On se demande d'ailleurs s'il a des missions, même au sein de la propre banque, on se demande s'il a encore l'appétit de tenir des dossiers.
Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il est un peu. Voilà, c'est un peu la crise de la quarantaine. Il ne sait pas trop où il en est dans son boulot et ça va lui redonner un petit regain, cette affaire d'autoroute. Et c'est vrai que.
Donc il y a l'opportunisme de se dire je vais profiter de la présence de ma nounou roumaine, c'est ça, parce que l'idée il l'a quand chez lui, il essaye un peu de potasser le dossier, parce qu'au moment où on lui annonce d'ailleurs il faut faire une autoroute en Roumanie, là,
ouais,
il n'y
a pas grand chose à faire au début, ouais, c'est vrai quoi. Mais ça lui redonne un peu de cette jeunesse, quoi, cet entrain et cette envie de bosser et de se dépasser, mais la réalité va le rattraper quand il va arriver en Roumanie et se rendre compte de ce qu'est la réalité.
Et l'émotion d'arriver en Roumanie, parce qu'il est ému quand il y arrive.
Ouais, bien sûr.
Et initialement, il est plutôt mu par des idées un peu humanistes, parce que l'idée même de s'adresser à sa nounou pour essayer de mieux comprendre, la démarche est plutôt positive, de se dire plutôt que d'aller vendre un projet dans un pays que je connais pas.
Ah, tu l'as vu comme ça, toi? Non. Moi, j'ai vu comme de l'opportunisme.
Moi, j'ai vu, redevient banquier d'un seul coup, et c'est l'idée qui fait que.
Je pense qu'il la considère parce qu'elle s'occupe vraiment de son fils, donc il a quand même une forme d'attachement à cette jeune fille. Et en effet, il est intéressé dans les informations qu'il va chercher sur ces histoires de monastères.
Je crois que pour la première fois depuis qu'elle bosse pour lui, il lui propose un café. Elle est même étonnée. Quoi.
Ouais, mais il est jamais là. Bien sûr, mais il va s'en servir au sens où elle est utile. Mais en même temps, je trouve qu'il écoute sincèrement ce qu'elle a raconté.
C'est marrant que vous soyez pas d'accord, toi. Ouais. C'est très marrant, mais c'est vrai.
T'as
que...
un problème, toi?
Il est chaud.
Le truc qui part en vrai.
Mais oui, il y a un peu des deux, moi, je pense que. Oui, là, c'est. Après, moi, je pense pas qu'il soit cynique, mais c'est vrai que oui, il se sert d'elle un petit peu. Je pense aussi, quoi.
Mais il la considère quand même
aussi. Je pense qu'il y a un peu des deux.
Il va découvrir un pays qu'il ne connaît absolument pas, une culture qu'il ne connaît pas, une langue, des traditions, une ambiance qu'il ne connaît pas. Et surtout, il va essayer d'être très convaincant pour faire cette autoroute ou cette route des monastères. C'est-à-dire vraiment, alors, deux choses qui vont pas, mais tellement pas ensemble, autoroute et monastère. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a un endroit de tranquillité le plus total, de repli sur soi, de silence. Et d'un coup, on se dit, non, on va y amener une 4 voies.
Oui, c'est ça, mais en fait, à la base, c'était pour développer du tourisme et voilà, des choses comme ça pour eux. Mais en fait, la Commission européenne s'en fout, elle veut juste faire sa 4 voies et voilà, et raser toute la forêt d'argent et que ça passe par-dessus.
Cette forêt d'argent étant donc une forêt de bouleaux qui lui rappelle sa région, qui lui rappelle son enfance. Et c'est là où il se dit que finalement, ça le rend. Cette forêt d'argent, et c'est d'où l'intérêt du titre d'ailleurs du film, ça le rend humain, c'est le moment où il est touché, c'est son talon d'Achille.
Oui, exactement, et je pense que c'est là aussi où il réalise que voilà, ce qui fait le véritable but pour lequel il est là, quoi, en fait, c'est juste faire une autoroute et la Commission européenne s'en fout de toutes ces histoires de monastères et
d'expropriation.
Voilà, exactement.
Ouais. Et aussi son fils qui est bercé par toutes les histoires de la forêt d'argent, son fils qui un jour aimerait aller
par
la voir.
Parce que ça lui tient à cœur.
Mais il faut dire que le contrat de 900 millions, pas du milliard, de 900 millions, qui est déjà une somme considérable, Nagui, je tenais à le dire.
Parce que tu pars hors taxe.
C'est le contrat du siècle pour la banque européenne. Oui. Tout le monde veut se battre pour ça. Il y a la patronne qui veut absolument ce contrat.
Qui est une horreur, c'est Victoria. Hein.
Elle est efficace, c'est tout. Faut pas juger.
Elle-même est menacée par une hiérarchie qui est encore au-dessus d'elle. Quoi.
Toujours, tout le monde.
Sauf toi. On peut s'imaginer que c'est la grande.
Tout le monde. On peut partir du principe, d'ailleurs, et je repense à votre manager dans le fast-food, que si ces managers parle mal aux employés, c'est parce qu'on doit aussi mal leur parler. C'est-à-dire que je crois à la vertu de l'exemple à donner dans la manière de parler. Je pense que si on parle bien à quelqu'un, il n'y a aucune raison qu'il reproduise un schéma totalement différent.
Ouais, ou tu te prends pour un petit chef parce que tu as un peu de pouvoir et tu commences à allumer tout le monde autour de toi.
Ce qui est surprenant, c'est que ceux qui ont connu ça deviennent des petits chefs, comme dit Leïla, et reproduisent
le
chemin,
quoi.
Ou sont pires.
Oui, ils peuvent devenir pires. Ça s'appelle La Forêt d'Argent, ça passe ce soir sur Arte, qui a une ligne éditoriale quand même de belles fictions. Hein.
Puis il y a des sujets sérieux aussi, et derrière ça, il y a la fiction.
Il y a du fond.
Voilà, c'est un rapport de lutte des classes, c'est un rapport aussi de c'est quoi l'Europe, c'est quoi la mondialisation.
Qu'est-ce qui est devenu l'Europe,
voilà, c'est quoi,
est-ce que la Roumanie existe vraiment?
Quelle est l'importance d'une chaîne pour un acteur comme vous, Nicolas Duvauchel? Est-ce que on fait une fiction pour Arte comme on la ferait pour TF1, pour France 2, pour France 3, pour M6?
Oui, après moi c'est les projets après, mais c'est vrai qu'Arte, j'avais déjà fait mon premier film qui s'appelait Le Petit Voleur, il avait été fait en coproduction avec Arte et il passait d'abord comme Le Péril Jeune qui était passé d'abord sur Arte, qui était sorti en salle après, donc c'est vrai que
ou La Journée de la Jupe de...
Où, j'ai pas vu celui-là, mais c'est vrai que j'ai un truc à voilà, c'est ça me ça me rappelle des souvenirs. Et c'est un truc, c'est une tendresse.
Ça change quoi?
Ça change quoi?
Le diffuseur change quoi à la création, au travail?
Je pense que c'est moins calibré télé et plus. Ils s'orientent plus vers le cinéma, même si ça reste un téléfilm. Arte, je pense qu'ils ont plus de liberté que TF1, même au niveau de l'image. Je pense que TF1, voilà, ils font toujours des téléfilms très éclairés, où il faut que les gens parlent très bien.
C'est clair-obscur tout le temps.
Voilà, donc,
on sent le manque de moyens.
Et c'est ça que j'aime bien, quoi. Voilà, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas des projos énormes et que tout le monde soit cramé.
Il n'y a pas les mêmes contraintes d'audience aussi, il faut aussi
dire
ça.
Non, bien sûr, c'est ça, oui.
Arte, je dis pas que.
Il n'y a pas de contraintes d'audience.
Voilà, elle fait les films qu'elle a. La chaîne fait le film qu'elle a envie de faire, donc ça déjà
ça peut cartonner.
Oui, non, mais je dis pas qu'ils font pas d'audience, mais je dis simplement que
Je pense que le matin ils regardent les audiences quand même.
Et ben moi je te dis que le matin,
tu y as travaillé. C'est
j'ai
vrai.
Travaillé, ouais. Le lendemain regardez pas
depuis
les audiences.
Depuis que t'es parti, ça va beaucoup mieux. Hein,
on regardait jamais les audiences, c'est-à-dire qu'on nous signalait quand on avait, je sais pas, performé sur le JT par exemple, mais c'était pas du tout à 9h01, les audiences tombent et tout le monde regarde. Pas du tout.
Mais ça c'était il y a 6 ans.
Ouais.
Voilà. La forêt d'argent, en tout cas, c'est ce soir. Voici des révélations, messieurs, dames, faites par François François.
Désolé, Nangui. Désolé, mais François-François est en garde à vue pour recel de magazines pornographiques usagés et de décolleuses à papier peint. Il m'a gentiment cédé sa place. Donc, salé, Nangui. Bonjour, les amis. Et coucou, Nicolas. Oh, bien sûr, j'ai regardé la forêt d'argent avec un intérêt d'autant plus vif que cette future autoroute est baptisée Autoroute des monastères, c'est joli. Pourtant, dans le film, en raison de l'immoralité des banques, il se pourrait bien que cette autoroute ne soit à l'image de celle exaltée jadis par le groupe sataniste à cet essai, une AV2L, une autoroute pour l'enfer. Si ce film m'a intéressé, c'est aussi...
AV2L.
Mais écoutez, Nagui, vous dites un wagon, pas un wagon. Donc moi, j'ai dit une AV2L.
Et tu dis Waterloo ?
Oui, Waterloo, morne pleine. Donc si ce film m'a... Vous savez que je suis expert en sémantique. Oui, si ce film m'a intéressé...
En langue, surtout.
Oui, vivante. Si ce film m'a intéressé, c'est aussi pour le jeu épatant de ses interprètes. Et là... Je t'ai dit bravo Nicolas. Et comme en évoquant Marina Pali, je lui dis gentiment.
Oui, oui, ça sonne faux, c'est bizarre.
Et comme en évoquant Marina Pali, alias Roxana, la jeune fille au père dont on parlait tout à l'heure, comme je m'enthousiasmais auprès de Leïla, celle-ci m'a dit Roxana, tu sais, moi, une héroïne qui porte un nom d'eau minérale riche en magnésium naturellement gazeuse, ça me fait pas rêver du tout. Bref, j'ai alors préféré expliquer à Daniel qu'en regardant La Forêt d'Argent, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que son réalisateur, Emmanuel Bourdieu, était le digne fils de son papa, l'éminent sociologue Pierre Bourdieu, dont ce film a bien y regardé, et je regarde bien, illustre les concepts. Primo, selon Bourdieu, le monde social est divisé en champs, lieu de compétition féroce, structuré autour d'un jeu spécifique. Ici, ceux de la famille de David, votre personnage, de la banque et de la finance internationale. Deuxièmement, dans ces champs, une violence symbolique perpétue les rapports de domination. Ici, la domination exercée sur David par sa supérieure hiérarchique et celle, in fine, exercée par David sur Roxana, naturellement gazeuse. Ah, comme tout ça est bien dit. Nom d'un cierge, je m'en pète le frein. Et,
ça va pas.
Mais si, c'est tellement bon ce que j'ai rédigé.
Et bon, j'ai entendu la même phrase.
Mais Nangui, je ne peux qu'être d'accord avec vous quand vous m'avez confié tout à l'heure, Père Albert, vos explications économiques sont d'une lumineuse circoncision et c'est quand même autre chose. Oui, j'ai bafouillé. C'est quand même autre chose, avez-vous poursuivi, que les analyses low cost d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho. D'ailleurs, avez-vous ajouté, s'il y a une chose qu'il faudra arrêter, c'est son émission. Ben voilà ce que vous me confiez. C'est ça les secrets des coulisses. Sur ce, Nicolas, je vous souhaite.
T'es mort ou quoi? T'es mort 4 secondes là. Oh, t'as disparu pendant 4 secondes.
Il y a plus de 3 mois, Albert.
Vas-y. J'ai du mal à respirer.
C'est le moment.
Vas-y, bonne émission.
J'ai les droits d'auteur. Sur ce, bonne émission.
Highway to Hell, c'est, voilà.
Ça fait du bien.
Ça fait toujours du bien d'écouter AC/DC. Nicolas Duvauchel, parlons du couple aussi dans ce film La Forêt d'Argent, parce que au-delà du banquier, au-delà des affaires, au-delà de l'utilisation ou pas de la nounou de Roxana, on peut pas dire que que l'amour soit encore vraiment dans l'actualité de ce monsieur.
Non, on n'est pas dans la passion folle, hein, c'est sûr, quoi. Voilà, bah oui, il y a eu un enfant, hein, vous savez ce que c'est, Nagui.
Non, bah, j'en ai quatre.
Il est plus lent, lui, un enfant 4 pour la musique.
Oh, non, phrase. Voilà, l'érosion du couple. Non, je rigole.
Il y a eu un enfant, l'érosion du couple.
Oups.
Non, mais blague.
Message.
Blague à part, on se demande si lui, dans son boulot, il se fait pas, finalement, dans la compétition de la réussite, sa femme n'est pas en train de prendre le dessus et de le castrer quelque part un tout petit peu, c'est-à-dire qu'elle est dans la réussite, lui, il est un peu dans la loose. Bah si.
Le castrer, non, t'as pas besoin d'avoir une femme supérieure à toi pour être castré, mais.
Ça aide pas en tout cas.
On avance quand même dans cette émission. Au fur et à mesure,
on en apprend sur Leïla et ses hobbies.
Non, mais t'as pas besoin de dominer professionnellement ta femme pour te sentir viril.
C'est parce que je dis, mais lui, en l'occurrence, il se sent affaibli parce qu'elle est dominatrice.
Non, c'est sournois, c'est de façon insidieuse, tu as un peu changé, tout ça. Non, elle cherche les ennuis.
Mais non.
Bah si, t'es d'accord. Ouais, hein,
je suis complètement d'accord.
Moi, je le trouve.
Non, elle essaye de le piquer au vif, ouais, je pense. Moi, elle essaye de piquer au vif. Je pense qu'elle a besoin d'un mec, justement, dynamique, qui a plein de projets, de choses comme ça. Des gens ont besoin de ça.
elle a aimé, c'est dit dans le film d'ailleurs, elle a aimé au début parce que c'était un loup.
Parce qu'il a dit qu'il allait devenir directeur.
Il
y a le mot directeur qui les obsède. Voilà, elle veut être directrice de la zone Asie.
Après, moi, je suis pas carriériste déjà dans ma vie, mais il y a des gens, oui, leur vie, c'est leur boulot, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi.
C'est quoi votre vie, vous?
Moi, c'est mes enfants, mes amis, voilà, le travail. J'aime bien ça aussi. Mais bon, moi, comme travail, c'est pas vraiment un travail, donc.
Le tatouage et le Big Mac, vous, c'est ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
Mais Nicolas.
La castagne, la baston.
Le matin, il vous faut un moteur pour vous réveiller?
Non, un réveil, c'est très bien.
Ouais, voilà. Non, mais je vais pas avoir meilleur réponse que ça.
Hein. D'ailleurs, je crois qu'on devrait arrêter l'émission là-dessus. Parce qu'on ne fera pas mieux.
Et puis, j'ai mes...
Non, non, 58 ans, ça vous met un coup, quand même.
Fin de game, fin de moteur.
Non, non, j'ai les petits.
C'est comme ça qu'on détecte Alzheimer, non? Les premiers signes. Il vous faut un treuil, Nicolas, pour enlever le matin?
Non, ça va. Voilà.
Qui vous fait les premiers soins le matin?
Voici Alexis Laurenti.
Ah, mon Agui, alors.
Ça rit déjà. Ouais. C'est pas de moi.
La force d'Alexis.
Bonjour, messieurs, dames, ça va bien? Vous allez bien? Oui. Moi, ça va un peu mieux, mais j'ai eu un début de semaine difficile, vraiment. Vous vous souvenez du jour où vous êtes allé chez vos parents pour vider votre chambre?
Oui.
La dernière fois, hein, c'est ce que j'ai fait lundi et mardi parce que mes parents en avaient soi-disant marre de mon bordel. Mon bordel, un peu de respect pour toutes les merdes que j'ai accumulées patiemment et jamais rangées depuis 30 ans. J'ai pas demandé à naître, moi. Moi, je suis là,
la crise ado à 40 ans.
Tout ça parce qu'ils déménagent. Hein, ils ont visité un EHPAD, ils ont craqué, voilà. C'est pas vrai, si seulement. En vérité, c'est tout le contraire. Ma mère, c'est Benjamin Button, elle rajeunit. Avant, elle portait des mocassins, maintenant, elle a des Nike. Air Max. Elle écrit pourquoi? P-K-O-I. Et moi, à l'inverse, je porte des gilets. Ça m'inquiète, j'ai l'impression que l'écart d'âge entre mes parents et moi diminue. Oui. Maintenant, quand ma mère dit, après manger, on ira marcher, je me sens concerné. Tu vois, dans ma tête, il y a une petite voix qui dit, bah, vas-y, Alex, ça te fera du bien. Même les mathématiques prouvent que notre écart d'âge diminue. Démonstration. Attention, faut être attentif. Quand j'avais un an, mon père, il était 31 fois plus vieux que moi. Aujourd'hui, il en a 65 et moi, 35. C'est-à-dire qu'il est même pas deux fois plus vieux que moi.
Ah ouais.
C'est fou, non?
Ouais.
Non, visiblement non. Bref, tout ça pour dire quoi?
Il y a des littéraires.
Ah oui, j'ai vidé ma chambre. Ça partait de là. Vider une chambre, c'est quand même plonger dans son passé. C'est la vie qui te dit, allez, hein, il faut grandir maintenant. Enfance finie, la vie d'impôt, tout ça. Le seul truc qui m'a consolé en vidant ma chambre, c'est que je me disais, c'est bon, je sais ce que je vais raconter dans ma chronique de vendredi. Ouais. Parce que je suis tombé sur plein de vieilleries que j'ai pas réussi à acheter. Alors je sais qu'intrinsèquement, ce sont des choses qui ont assez peu de valeur. Mes dents de sagesse, par exemple. 20 ans que je les ai dans ce petit tube.
C'est dégueulasse.
Mais j'arrive pas à les jeter. Voilà. J'ai aussi un pistolet à patates.
Non, mais il est vraiment, il a vraiment rapporté tous les objets.
Vous savez comment ça marche, un pistolet à patates? Comme ça.
Mais voilà. Ça va pas, non? Hein? Traqué ou quoi?
C'était cool. Voilà, c'est pas hilarant, mais c'est drôle quand même.
Surtout à la radio.
C'est filmé.
Un pistolet
Et surtout, je suis tombé sur un exposé fait au collège et sobrement intitulé Nagui. Voilà. Alors je préviens, il y a quelques erreurs et des passages laissés en blanc parce que j'avais pas l'info. À l'époque, il y avait pas internet, fallait aller à la bibliothèque, tout ça, puis moi j'aimais bien jouer au foot quoi. Bref, je vous lis mon exposé.
Ah oui.
Nagui. Il y a quelques erreurs. Né à Casablanca au Maroc.
Je te confirme.
Il effectue ses études supérieures, il y a une petite faute là, à Paris à partir de 19 ans, laissant sa famille.
Il y a une faute, il y en a deux.
C'est,
il manque un E et un S.
Oui, mais ça fait qu'une faute quand même.
Non, non, c'est
corrige. Non, c'est et le féminin le pluriel.
Laissant sa famille dans son pays.
Mais non.
Il suit des études de cinéma avec son cousin et ses parents.
Mais non.
Déjà installé depuis 6 ans.
Mais tout est faux.
Mytho, va.
Il se lance donc dans le cinéma à 24 ans.
Mais non.
Avec un diplôme en poche. Mais c'est à la télé qu'il fera ses premières gammes en compagnie de Michel Drucker.
Mais non.
Dans, mais là il y a un blanc, je sais pas. Où il est figurant.
Mais c'est un autre Nagui.
Je sais pas. Il joue aussi au théâtre le week-end et c'est à Bobino que le producteur.
N'importe quoi.
Pas le nom du producteur, le remarque et après quelques essais, lui offre sa première émission présentée seule sur la chaîne 2. Et j'ai pas le nom de l'émission.
La chaîne 2.
Le parcours qu'on lui connaît aujourd'hui est remarquable et il est aujourd'hui l'animateur phare de Nulle part ailleurs sur Canal+.
Ah oui, c'était en 2000.
Voilà. Je sais plus.
C'était en 2000.
Mais t'avais quel âge?
Pour ton anniversaire. Ah, c'est gentil, mais.
C'est fini?
Je pensais pas lui faire si plaisir avec ça.
Mais ça me touche que.
J'ai une suite, non, je me
rends compte. T'as pas la note? T'as eu combien?
Ouais, non, je l'ai pas présenté, tu vois, y a pas la note. Non. Je crois que c'était libre.
Voilà. Il y a du boulot.
Mais c'est tout, c'est le mektoub, le destin, comme on dit, la radio, les chroniques, les petits cachets, tout ça, c'était écrit, quoi. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Alexis. Merci, Alexis.
Et on se retrouve toujours au point-virgule.
Ouais, point-virgule, jeudi, vendredi,
samedi, 19h.
Je vous donnerai des places.
Mais je suis déjà venu.
Parce qu'il y en a.
Oh, j'hallucine. J'hallucine.
C'est génial l'exposé. Avec incroyable. L'écriture de chaque.
Non, mais ce qui est génial, c'est que tout soit faux à ce point.
Ouais. C'est vrai, à la fin, j'ai le paradoxe, c'est tout. Bon.
Non, mais c'est.
Né à Casablanca au Maroc, déjà,
ça commence mal. Mais d'où tu vas chercher ça?
Je sais pas. J'ai dû inventer tout ça.
Et en 2000, t'étais en quelle classe?
En terminale, quand même.
Non, je devais être en quatrième. Ça devait être en 99, 98.
Cinquième, Canabus, c'est 99-2000.
Ah, ben, j'étais déjà.
Ils ont pas supporté plus longtemps.
Quatrième, troisième.
C'est encore plus grave. Surtout les fautes de français. Ouais. Bon, revenons donc à cette forêt d'argent et à Nicolas Duvauchel avec cette musique aussi. Ça, c'est la bande originale du film. Que vous avez découvert d'ailleurs. Est-ce que on finit autant il y a des avant-premières au cinéma pour la télévision? Est-ce qu'il y a des projections faites en équipe?
Oui, il y avait une projection, mais j'ai pas pu y aller parce que je travaillais et donc voilà, j'ai pas pu aller voir mes collègues. Voilà, mais ça arrive. Oui, il y en a.
Donc vous avez pas vu le film?
Les avant-premières, si, je l'ai vu. Mais je n'ai pas été à l'avant-première.
D'accord, très bien. La musique dans la vie de Nicolas Duvauchel, on va commencer dans les années 80. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. C'est bon ça. Mark Knopfler a quand même réussi un truc, il a un toucher de guitare.
Incroyable.
Qui fait qu'on entend le jeu, on sait que
c'est lui direct.
Le seul au monde à jouer comme ça.
Bien sûr. Et mon père est fan absolu de Dire Straits.
C'est lui qui vous a apporté cette musique à la maison?
Ah oui, ouais. Non, mais il a je sais pas combien de vinyles, des CD, plus savoir qu'en faire, mais ouais, j'ai vraiment une passion pour la musique et c'est grâce à lui, ouais.
Et une enfance parisienne en première partie, et ensuite à Amiens.
Voilà, c'est ça.
En deux temps.
C'est ça, les années noires.
Pourquoi les années noires?
Non, je rigole. Non, mais ça n'a pas été facile. Le passage de Paris à Amiens, ouais, ça a été assez compliqué. Ouais.
À quel niveau?
Bah, je suis arrivé un dimanche, j'avais personne dans la rue, quoi. Personne, non, j'avais jamais vu personne, quoi. Personne.
Et lundi, vraiment, pareil. Personne lundi, dans la rue, pareil.
C'était un peu ça. Et puis, ouais, c'est pas, voilà. Et puis, le temps, hein, le taux d'ensoleillement est pas. Ouais.
Mais
pas
génial. On y gagne sur la nature des gens, j'ai la sensation.
Oui,
c'est plus chaleureux,
quoi. La famille du côté de mon père vient de là-bas, donc voilà, j'ai quand même.
Vous avez croisé Macron, parce qu'en fait, vous avez le même âge.
Ah non, on n'était pas dans le même quartier, pas.
Parce que lui, il dit qu'il s'est fait casser la gueule par un mec.
dans un fast-food, qui était manager.
Et qu'il était très ambitieux. Et très méchant.
Et il n'a pas compris.
Déjà à l'époque.
C'est là qu'il a eu l'envie de réformer, justement.
Et vous parlez plutôt d'une enfance où les parents n'étaient pas forcément là, ça veut dire que tout ce temps libre, il était voué à quoi?
Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis j'écoutais de la musique, mais ouais, beaucoup de dessins. Ouais, j'aime beaucoup
BD
dessiner.
Ou dessins,
illustrations? Non, des dessins, plein de dessins, ouais. de tout.
Vous étiez plutôt solitaire?
Non, pas forcément. J'ai des amis, Nagui.
Le dessin, on imagine celui qui est seul dans son coin en train de dessiner.
J'aimais bien. Mais j'avais besoin de mon petit temps seul pour dessiner. Ouais, j'aimais beaucoup ça. Ouais.
Et la musique, vous l'écoutiez ou vous la jouiez?
Je l'écoutais, j'en ai joué aussi. J'ai fait du métal, là, du hardcore, il y a de 96 à 2004, on va dire, quoi, pendant une dizaine d'années, quoi. J'avais un groupe. Mais ouais, je suis un gros bouffeur de musique. Ouais, ouais.
On va d'abord évoquer les années 98. Vous écoutiez.
Alors, on est sur autre chose, là, ouais.
La douceur de Dire Straits est totalement disparue.
Oui, bien sûr.
The Only Living Witness,
c'est ça.
Tambour.
C'est ça. Ouais, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Voilà, pour qui j'ai une tendresse particulière. Voilà,
Comment vous avez découvert cette musique? C'est un pote.
C'est mon cousin qui m'avait fait écouter des groupes de punk, on va dire Cockney Rejects, les Sex Pistols, voilà, de un peu de la scène rock anglaise, enfin punk anglaise des années 70-80. Et après, je suis venu un peu au métal avec Metallica, CDC, tout ça. Et puis voilà, le hardcore, c'est un peu la jointure entre le punk et le métal. Donc,
c'est la musique
l'ascenseur à Amiens.
Voilà. C'est une forme d'exutoire pour vous, c'est-à-dire que ça libère une énergie.
Oui, et puis j'aime ça surtout, quoi, en fait.
Oui, mais qu'est-ce que vous aimez là-dedans ?
Ouais, l'énergie, et puis c'est surtout des très bons musiciens.
Oui, parce qu'on a l'impression que ceux qui n'aiment pas disent c'est que du bruit.
Non, mais c'est super technique ce qu'ils font, les batteurs, les guitaristes, voilà, c'est vraiment des très bons musiciens, donc c'est ça que j'aime bien aussi, la technique musicale. Quoi.
Et 98-99, Nicolas, vous êtes embarqué dans une aventure un peu folle, menée par la réalisatrice Claire Denis, je crois que c'est Dominique Besnéard qui vous...
Tout à fait. Qui
vous oriente finalement vers elle.
Oui, tout à fait. Ouais, on part tourner Beau Travail, un film à Djibouti de Claire Denis.
Ouais.
Sur la Légion.
Voilà, c'est ça, avec Grégoire Collin.
Denis Lavant,
qui était extraordinaire. Ouais. Et puis il y avait des chorégraphies de Bernardo Monté, qui est un très beau chorégraphe. Et avec des danseurs aussi, des danseurs.
Donc des danseurs, des légionnaires.
Exactement.
Denis Lavant.
Ça danse beaucoup à la Légion.
C'était fou. Ouais. D'ailleurs, c'était un peu chaud là-bas, quoi, avec les vrais légionnaires. Ils n'étaient pas très contents qu'on fasse un film avec des danseurs sur la Légion. Ça a été un peu chaud. Moi, je me suis fait embarquer par la police militaire aussi. On tournait sans autorisation de Djibouti. Et j'avais pas mon képi. Je me suis fait embarquer par deux Maoris, là, énormes. Je me rappelle. Je peux te dire que là.
Tu fais pas le malin.
Non.
Tu fais pas le Mario.
Non, là, oui, non. 110 kilos les deux. Non.
Et c'était quoi votre rôle justement? C'était un rôle important, un rôle.
C'était un des légionnaires, quoi. Rôles importants, c'était Michel Subor, Denis Lavant et Grégoire Collin. Moi, je faisais un des légionnaires, donc on était une quinzaine.
Mais
c'était une expérience incroyable. On est parti deux mois là-bas, c'était fou. Ouais.
Et ça vous permet en plus d'aborder une réalisatrice comme Claire Denis, qui est quand même quelqu'un d'hyper pointu aussi dans sa façon d'envisager le cinéma.
Complètement. Et puis ça nous a permis de recollaborer plein de fois ensemble.
Qu'est-ce que vous aimez chez un réalisateur ?
Sa sensibilité et moi j'aime bien rencontrer le réalisateur après avoir lu le scénario. J'aime bien le voir humainement parce que j'aime bien travailler avec des gens à qui je sais que je vais m'entendre, quoi. Et comme on donne beaucoup, ça m'est arrivé d'être déçu parfois d'avoir donné tant à certains et maintenant je me méfie et j'aime donner à des gens à qui j'ai envie de donner, en fait, tout simplement.
Non, mais il y a une phrase qui revient beaucoup en ce moment, c'est qu'il faut distinguer l'artiste et son œuvre, l'homme et son œuvre.
Ah bon, d'accord.
Pas pour vous ?
Non, je n'ai pas d'avis là-dessus. Non, vous parlez de
monsieur. Je dis simplement, est-ce qu'il faut aimer quelqu'un pour aimer son travail ? Est-ce qu'il faut connaître
Non, pas forcément, mais après, il y a des choses sur...
Vous dites qu'il y a des gens qui m'ont déçu quand j'ai travaillé avec eux, parce
oui,
que...
Mais c'était humainement,
c'était ma question.
Après, c'était pas sur... Oui, et puis après, sur le... moi, j'ai besoin de l'humain, j'ai besoin de donner à quelqu'un que j'aime bien, quoi. Mais bizarrement, quoi.
Ça
passe que par l'humain, en fait.
C'est pas bizarre, c'est intéressant, parce que beaucoup de personnes disent, il faut distinguer les deux. Vous dites, non, pour moi, j'ai besoin d'aimer les mains pour
travailler dans le conflit. J'ai déjà travaillé dans le conflit plusieurs fois là, sur des plateaux, et j'ai pas envie de ça.
C'est fatigant.
C'est fatigant. Oui.
En 2009, vous écoutiez. Alors là, on sort du hardcore et de la musique de musicien pour arriver aux musiciens électro-techno. Ordinateur DJ Mehdi.
Ouais, voilà. Un petit pensée pour lui qui est parti. Et c'est toute cette bande de copains. Bon, il y avait DJ Mehdi, il y a Kavinsky, il y a DJ Pone. Voilà, les copains de justice aussi. Sébastien aussi qui a sorti un album il n'y a pas longtemps. Voilà, toute cette bande que j'aime beaucoup et qui m'a fait découvrir un peu l'électro. Française et on a des super artistes, quoi, vraiment.
French Touch, ouais.
Exactement, des super artistes.
Vous êtes un clubbeur ?
Avant, oui, je sortais beaucoup. Maintenant,
avant,
moins.
Quoi ?
Avant.
Avant la paternité ?
Avant les trois enfants, ouais. Bon, j'ai continué un peu après quand même, mais.
Vous les emmenez ?
Le dernier m'a achevé. J'y retournerai plus, je vous le dis. C'est fini.
En club ?
Oui, parler des clubs.
Non, ouais.
Et 2009, c'est la période Braco, on l'a évoqué, qui vous vaut cette notoriété dans la rue en incarnant ce lieutenant Théo Wachewski. Et c'est aussi la fille du RER, d'André Téchiné.
Ouais, le grand écart.
Ouais,
voilà,
même période et cette possibilité de naviguer. Moi, j'ai la sensation dans votre carrière que vous êtes hyper identifié au cinéma d'auteur ou réalisateur un peu pointu. On a parlé de Claire Denis, je pense à Thierry Cliffat, par exemple, où vous étiez avec Catherine Deneuve. Et en même temps, de la série qui est super qualité par ailleurs, mais qui est un peu plus grand public.
Et moi je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, quoi, faire un peu des films un peu pointus qui me plaisent, et puis un peu des trucs au grand public pour pas tomber dans l'oubli.
Ouais.
Voilà.
Mais
c'est vrai que c'est dur de gérer
ça,
les deux. Oui, c'est dur de gérer les deux. Enfin, de faire les bons choix, de faire les deux. Et puis, on fait aussi en fonction de ce qu'on nous propose. Hein. On va pas se mentir. Non.
Qui vous aide là-dedans?
Ouais, un agent?
Oui. Céline Camina, qui est mon agent depuis plus de 15 ans qu'on travaille ensemble.
Donc, voilà. Et elle vous oriente un peu sur ce côté.
Alors, c'est une deuxième maman, oui.
C'est
une deuxième. Ah oui, complètement. Désolé, maman, de dire ça. Elle est
mieux ou pas?
Je vais me faire tuer.
Que la première?
Non.
En 2017, Nicolas Dubochel, vous écoutiez. I know that you need me. You can hide and come see me. Got you super freaky. Got you speaking Swahili. I know that you need me. You can hide and come see me. Got you super freaky. Vous en parliez, Sébastien.
Bah oui, et moi je crois que c'était pour 2019, donc je crois que c'était pour maintenant, parce qu'il vient de sortir l'album, donc en 2017 je pouvais pas écouter ça.
Non, mais voilà, partie, c'est, oui, c'est voilà. La bande, quoi.
Oui, j'aime bien, et c'est un sublime album là, qu'il a fait, et c'est pas ça me parle, j'aime bien, voilà. Mais je vous invite à...
Vous écoutez la musique dans quelle situation, condition? En faisant du sport, en vous baladant,
tout
seul dans la voiture
Tout le temps. Ouais. Tout le temps, ouais, j'ai mon Walkman, j'ai mon iPhone avec ma musique.
Les écouteurs.
Là, voilà, je tout le temps là dans le taxi, j'en avais musique. Quand je dînais avec mes filles aussi, elles aiment bien écouter de la musique.
Est-ce que c'est la musique qui décide de votre humeur ou c'est votre humeur qui fait la programmation musicale?
Bonne question. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que parfois, oui, je pense que la musique aussi joue beaucoup sur mon humeur, mais de savoir. Hein. Donc, qui de la poule ou de l'œuf, voilà. Mais c'est c'est bonne question. C'est vrai.
Et 2017, vous êtes nommé au César, Nicolas, pour votre rôle dans Je ne suis pas un salaud d'Emmanuel Finkiel. On en avait parlé à ce micro, qui est un film qui était un très beau film. Enfin, nous, on avait beaucoup aimé ce film. Et vous dites dans une interview, il n'a pas été assez vu, il n'a pas rencontré suffisamment de public.
Ah oui, et puis il y a eu toute l'histoire du 13 novembre et tout, justement, qui est, voilà, comme dedans il y a une scène un peu de tuerie à la fin, voilà. Et je pense qu'on avait des très bons retours avant le 13 novembre, et comme on sortait juste après, là, on sortait fin novembre, on sortait dans cette époque-là, et c'est vrai que.
C'est compliqué.
Ça a été compliqué pour les gens après de recevoir le film. Ça a eu un tout autre impact après quand les gens les projets de presse après post 13 novembre. Ouais, ça a été plus dur.
On n'a pas la même lecture.
Bien sûr.
Ça et les gens allaient peut-être moins en cinéma aussi. Non, là c'est vraiment le sujet. C'est plus.
Ouais,
c'est pas
c'est
en
histoire
salle,
de sujet.
Moins envie de voir
peut-être,
ça.
Peut-être aussi qu'ils sortaient moins aussi du à ça. Mais
on a la chance d'avoir Gaspard Koenig, l'auteur du roman. Bonjour et merci.
Bonjour.
De venir à ce micro. Vous avez donc en 2016 signé le livre qui est devenu ce film qui passe ce soir sur Arte, La Forêt d'Argent. Sauf que le titre, initialement, c'était Kidnapping. C'était pas La Forêt d'Argent.
Oui, d'ailleurs, je trouve que La Forêt d'Argent, au fond, est un meilleur titre que Kidnapping.
Pourquoi?
Il est un peu plus poétique. Les kidnapping était un peu plus métaphorique parce qu'il voulait évoquer aussi le kidnapping de l'Est par l'Ouest, le kidnapping des gens par les autres. Enfin, il voulait tirer plusieurs fils, peut-être un peu trop de fils. J'ai été à l'avant-première, mardi. J'ai vraiment été très très ému parce que j'avais juste vu quelques extraits avant. Je me suis vraiment pas du tout, et volontairement, je suis pas du tout impliqué dans l'écriture. J'ai parlé au réalisateur Emmanuel Bourdieu pendant une bonne heure. J'ai compris qu'il avait parfaitement compris ce que je voulais faire, et donc à partir de là, je lui ai fait entièrement confiance pour faire un film qui prend énormément de liberté par rapport au livre, mais vraiment tant mieux, parce que
tous les auteurs nous disent qu'ils se sentent quand même, et c'est légitime, dépossédés après de leur bébé quand comme ça il y a une adaptation. Comment
moi,
vous l'avez
vécu? Moi je trouve pas du tout, au contraire, je trouve que il y a une narration qui est différente parce qu'il faut la faire tenir en une heure et demie, donc on prend moins de liberté que dans un livre où on peut faire 50 pages un peu hors sujet parce qu'on a envie de parler d'autre chose. Mais du coup, ça le rend aussi plus clair, et il a trouvé aussi un certain nombre de solutions narratives que j'avais pas forcément trouvées sur certains points. Il a rajouté des passages qui sont très drôles, vraiment. J'ai beaucoup rigolé pendant ce film. Et puis peut-être parce que j'étais particulièrement ému, mais enfin j'ai aussi beaucoup pleurniché. Je trouve un film très très émouvant avec le jeu de Nicolas Dubochel, mais aussi avec celui de Marina Paly, qui est pour moi, enfin, une actrice. Je connais mal le cinéma, mais je trouve qu'elle joue incroyablement bien et incroyablement juste. Qu'elle arrive à se transformer en plus, parce qu'au début et Nounou, on ne sait pas trop, Nounou un peu sortie de sa ruralité roumaine, et puis quand elle se transforme en mini-banquière, en assistante. Avec, tout d'un coup, elle, même dans son physique, dans la manière de jeu, dans la manière dont elle se tient, tout d'un coup plus droite, elle se métamorphose. Et puis elle joue aussi avec une espèce de dignité qui fait partie de son personnage, et du dignité de quelqu'un qui peut pas répondre, qui peut pas dire non, mais qui garde toujours au fond de lui un non, en fait. Fondamental et massif.
Ce qui fait la force dans ce frottement entre les deux cultures françaises et roumaines, entre le calme et le monastère roumain et l'envie de mettre son bitume dans cette fameuse autoroute quatre voies qui traverse le pays. C'est une histoire vraie, entre guillemets, cette histoire de grande autoroute qui était un marché intéressant pour les financiers.
Bah d'abord, la question de l'autoroute qui traverserait la Roumanie du nord au sud, elle a toujours été posée, en fait, depuis la chute du mur. L'Europe a toujours essayé de faire une autoroute là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un livre aussi qui laisse le sujet assez ouvert. C'est pas forcément mal de faire une autoroute. Moi, quand j'allais justement dans le nord-est roumain, parce que c'est une région que je connais très bien, ma femme est roumaine, et évidemment, je me suis inspiré de beaucoup de choses que je connais moi-même. Avant on atterrissait, alors maintenant il y a des low cost qui vont directement à Iași, c'est plus facile, mais avant on atterrissait à Bucarest. Bucarest, nord de la Roumanie, 300 km, 7 heures de route. Et c'est des routes hyper compliquées,
vous
d'ailleurs, on les voit dans le film.
Vous passiez par où 7 heures.
Oui, c'est un mauvais conducteur. Ils s'arrêtaient beaucoup en route, mais... je pense.
D'où l'idée d'autoroute, quand même.
Non, et vous avez des deux voies avec une sorte de mini-voie. Et c'est très dangereux. D'ailleurs, c'est le pays où il y a le plus d'accidents de la route en Europe.
Ouais, je confirme que la conduite, c'était...
Voilà, c'est sport.
Rock'n'roll.
Oui.
Mais et donc, puis, il y a des charrettes à cheval, tout ça. Donc, c'est à la fois, et c'est comme toujours, et c'est le dilemme de la modernité. C'est ça que j'ai voulu montrer parce que j'ai pas de réponse claire. Et comme toujours, ça, effectivement, ça arrangerait beaucoup de gens, y compris des locaux. De pouvoir aller dans le nord de la Roumanie en deux heures de route, de pas avoir à se taper ces routes invraisemblables avec des chariots à cheval. Et c'est, moi, dans le village où je vais, la moitié du village n'a pas d'eau courante. Alors nous, on trouve ça charmant, ils vont chercher l'eau au puits, c'est magnifique, c'est rural, c'est les traditions, mais en même temps, ces gens-là, ils aimeraient beaucoup avoir l'eau courante. Mmh. Et on est tous un peu dans ce dilemme, vous savez, et la commission, quand elle veut faire une autoroute, c'est pas, franchement, pour enrichir les financiers. D'ailleurs, justement, cette banque est une banque publique. Donc, c'est une banque qui fait pas d'argent. Enfin, quand elle fait de l'argent, elle le reverse aux États fondateurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout le monde, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le livre ou dans le film, c'est que tout le monde a d'excellentes intentions. C'est bien de vouloir faire une autoroute. Et puis, en même temps, le monastère, on comprend aussi parfaitement sa position. C'est bien de vouloir protéger des régions qui sont justement un peu isolées et qui du coup vivent de manière complètement différente. Et quand vous allez en Roumanie, d'ailleurs, c'est merveilleux parce que c'est les dernières zones quasiment pré-industrielles parfois de l'Europe où vous buvez le lait de la vache d'à côté qui a un goût que vous ne retrouverez plus jamais en France. Les popes arrosent les champs avec de l'eau bénite, qu'il y a encore des chevaux pour tirer la charrue, mais que ça change aussi évidemment, ça se modernise.
On sent que là, vous n'êtes pas documenté, vous avez vécu tout ce que vous racontez, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que la réalité de la Roumanie, je ne savais pas que c'était votre épouse, mais en tout cas là, on comprend mieux comment vous avez pu relater tout ça. La réalité aussi de votre métier, vous étiez analyste financier dans une autre vie, donc vous savez de quoi vous parlez aussi quand vous tracez le portrait des personnages de Nicolas Duvauchel ou de son épouse.
Voilà, alors j'étais pas analyste financier, j'ai travaillé 3 ans effectivement à la Banque Européenne de Reconstruction et Développement qui est à Londres et qui est notamment active en Roumanie.
Quel que soit le boulot, vous avez vu de l'intérieur comment ça se
complètement.
Passe.
Oui, complètement, j'ai vu cet univers, j'ai aussi bien vu l'univers, évidemment, enfin je connais très bien la Roumanie profonde, si je puis dire. Et donc j'avais voulu faire un roman qui, justement, par rapport notamment à mes romans précédents, était un roman extrêmement réaliste. Réaliste sur le plan économique, sur le plan social, je voulais faire des choses, et je voulais justement construire une contradiction. Et bourré de contradictions parce que il y a une contradiction dans le rapport à la maternité, c'est-à-dire que ces gens ils aiment leurs enfants mais ils n'ont pas le temps
ils n'ont pas le temps de s'en occuper parce qu'ils bossent trop.
Donc ils demandent à une nounou. Et puis la nounou elle se transforme un peu en mère et d'ailleurs le gosse il parle roumain sans que eux-mêmes s'en aperçoivent et à la fin on s'aperçoit quasiment il aime la nounou plus.
Sa mère, l'enfant.
Et pourtant la mère elle est pas méchante avec lui, elle aime bien, elle le prend dans les bras, on le voit dans le film, elle lui raconte des histoires. Il y a une contradiction dans le phénomène même du développement.
Elle le redécouvre même quand la nounou n'est plus là. C'est-à-dire qu'il y a
Elle s'humanise beaucoup à la fin du film, ce qui est assez intéressant. Il y a la contradiction de la vie de ce type qui est ambitieux à la fois pour la bonne cause, parce qu'il a envie de faire plaisir à sa femme, parce que aussi, il fait un métier qui est censé être un métier quand même plutôt intéressant, plutôt noble quelque part. mais qu'en même temps, il voit bien dans quelles arcanes il lui faut passer, parce que toute grande institution devient une bureaucratie, et toute bureaucratie génère ses pièges, ses problèmes, et ses rapports de pouvoir, ses rapports de soumission.
Mépris aussi, quelque part, on le sent dans les dirigeants de la Banque européenne, c'est dire, voilà, s'il y a un obstacle à la négociation, il y a bakchiche possible, c'est un pays gangréné par la corruption, donc... Tentons ce mode-là, c'est aussi une façon quoi de dénoncer.
Il y a la phrase, tout le monde a appris.
Voilà, le regard un petit peu, je trouve, on regarde un peu de haut, tout d'un coup les pays un peu moins riches de l'Europe, ou ça vous l'avez observé?
Oui, en réalité, ça va plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que les banques ne vont pas construire des autoroutes en Roumanie, précisément parce que c'est un pays qui a trop de corruption, c'est d'ailleurs pour ça que les fonds européens sont bloqués.
Sauf que là, ils rencontrent un homme politique qui ne veut pas lâcher. Et
oui,
qui...
mais après les gens, quand ils essayent, c'est toujours pareil, ils essayent, ça fait partie des complexités, c'est-à-dire que les gens, ils essayent de faire quelque chose de bien, s'il faut à un moment donné passer par un peu de corruption, ils disent, oui, mais la finalité peut-être vaut la peine de fermer les yeux sur telle ou telle chose. Moi, d'ailleurs, certains critiques ont dit oui, c'est un film, on ne voit pas trop où il veut en venir. Ben exactement, on ne voit pas trop où je veux en venir, parce que dans la vie, on ne voit pas trop où on veut en venir, très souvent. Et moi, je veux dire, sur le plan théorique, je trouve ça très bien de construire une autoroute en Roumanie, ça développe, ça fait du tourisme et tout ça. Mais en même temps, sur le plan humain, je vois très bien tout le dégât que ça cause.
Non, c'est le déchirement entre eux.
Moi, je n'ai jamais résolu. Voilà, cette
contradiction. Est-ce qu'il faut garder la nature telle qu'elle est, sa pureté, sa tranquillité, ou est-ce qu'il faut y apporter le développement, la modernité et le progrès, la pollution.
En plus, c'est quelque part aussi une réaction de touriste. C'est-à-dire nous, en touristes, on trouve ça merveilleux de voir les cloches sonner, tout ça. Mais les gens du village, ils n'ont absolument pas ce point de vue. Ils ont envie de.
Ouais, j'ai vu le film comme un énorme problème de communication. La communication dans tous les sens du terme. La communication au sein du couple, la communication évidemment avec cette autoroute qui doit se construire, problème de communication avec un portable qu'on n'arrive pas à joindre et donc un chamboulement et un danger possible. Communication dans l'incompréhension aussi de certains actes faits par les uns ou les autres. Vraiment, il y a ce chapeau de communication pour moi est très présent dans tous les personnages et dans toutes les intrigues.
C'est très vrai, parce que c'était à la base un livre que je voulais faire sur l'Europe, parce que alors ça se passait au début en Angleterre, maintenant ça se passe à Strasbourg, parce qu'avec le Brexit ça devient moins crédible. Enfin, il y avait du Bruxelles, il y avait de la France, il y avait de l'Angleterre parce qu'ils vivaient à Londres, puis il y avait de la Roumanie. Donc il y avait un peu toutes les extrémités de l'Europe. Il y avait la vieille Europe, il y avait l'Europe un peu périphérique, il y avait la nouvelle Europe, l'Europe de l'Est. D'ailleurs, j'en profite pour dire que souvent l'Europe de l'Est est beaucoup plus pro-européenne que nous. Vous avez des élections européennes en Roumanie, il y a des drapeaux européens partout, et tout le monde voit bien ce que l'Europe leur apporte, même en termes d'état de droit, de lutte contre la corruption. Et que donc, on est à une époque où on communique très rapidement. On peut aller maintenant à Iași ou à Bucarest en 2h30 d'avion, ça coûte pas cher, on peut appeler tout le monde avec son portable et tout ça. Et qu'en même temps, il y a des autoroutes, et qu'en même temps, cette rapidité de la communication n'engendre pas forcément une meilleure compréhension des uns et des autres, voire même les éloigne. C'est un peu ce paradoxe-là aussi que ça met en lumière. Alors, on s'échange des textos toute la journée, et il échange des textos toute la journée avec sa femme, et ils se disent heure par heure ce qu'ils font, t'es où, etc. En même temps, est-ce qu'ils se comprennent tous les deux? Ben non, en fait, ça fait bien longtemps qu'ils se comprennent plus, même s'ils communiquent beaucoup.
Vous venez de publier La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, paru en septembre dernier aux éditions de l'Observatoire. Merci. Et puis ça m'étonne pas que vous soyez retrouvé avec Bourdieu et Emmanuel cette fois-ci.
Belle rencontre,
c'est ça, dans cette forêt d'argent ce soir sur Arte. Merci Gaspard Koenig d'avoir trouvé
le
temps de venir à ce micro. Bonjour Tanguy Passu.
Bonjour Nagui.
Comment ça va Tanguy Passu?
Ça va, et vous-même?
Vous aimez Madonna, il paraît.
Oui, j'aime Madonna, par flemme, comme je l'ai toujours connue et que j'ai pas envie de me casser le cul à découvrir d'autres artistes, je l'écoute elle. Après tout, l'intro de Papa Don't Preach au violon, c'est comme du Vivaldi en mieux produit. Mais aux USA, Madonna fâche son public. Figurez-vous, en arrivant en retard à ses concerts, un fan a même porté plainte contre elle pour ça.
Semblait qu'il
n'y a plus de respect.
Non mais c'est honteux. On en reparle après les infos de midi sur Inter. La bande originale avec Léa Cadon-Boudeli, Daniel Morin, Albert Aldo, Alexis Le Rossignol,
oui, c'est moi.
Val Sibéris, Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Et notre invité Nicolas Dubochet.
Bravo.
avec ce film La Forêt d'Argent, aux côtés de Marina Pali, Julia Fort sur Arte, pardon, à 20h55. Cette Forêt d'Argent, l'adaptation du roman de Gaspard Koenig, qui était tout à l'heure ici notre invité, et où on a bien compris d'ailleurs qu'il y avait en effet plusieurs lectures possibles dans le film, comme dans le roman d'ailleurs.
Oui, c'est parce qu'il a écrit ce garçon, voilà, c'est ça.
C'est dégueulasse.
Et qu'on comprend mieux le film, à savoir qu'il connaît si bien la Roumanie qu'il a vécu, parce que lorsqu'il décrivait tout à l'heure la Roumanie, ses espaces, ses forêts, la manière dont on pouvait boire les choux qui venaient à peine d'être
frais,
ou de voir la manière dont les champs pouvaient être arrosés, tout ça, vous avez opiné du chef en disant ouais, c'est exactement ce que vous avez vu.
Moi, j'ai vu
ouais.
Les charrettes avec les chevaux, tout ça, et c'est vrai qu'on a tourné à Pitești, qui était un tout petit, là où il y avait le monastère, un tout petit village, et ils n'avaient pas l'eau courante. Oui, c'est vrai que voilà, c'est notre façon de vivre, mais c'est vrai que c'est pas forcément le voilà, eux ils aimeraient bien avoir l'eau courante, voilà, accéder à tout ça. C'est
vrai que quand
et vraiment il y avait des problèmes de communication, pas de portable possible, pas de relais, c'était ça voulait vécu.
Ah non, tout passait très bien là-bas. Non, d'accord. Non, après on a inventé ça un peu pour le scénario.
Non, mais alors, donc pour l'anecdote, il n'y a pas l'eau courante, mais il y a
mais
les relais.
Mais il y a un réseau incroyable, c'est complètement fou. Ouais.
C'est ça que je voulais entendre.
Un peu tout à l'envers. Ouais.
Voici Tanguy Passion.
Et Tanguy.
Tanguy, vous êtes un peu maintenant le spécialiste de la musique. Dans cette émission, donnez-nous des nouvelles de Madonna.
Eh ben, elle va bien, Nagui. Elle a 61 ans. Mais 61 ans maintenant, c'est pas comme 61 ans. Avant, c'est une vdilf, vieille dame, I would like to fuck. Quand j'étais petit, les dames à 61 ans enfilaient un tableau moche du catalogue d'Axon et renonçaient à leur corps. Même si leurs tétons, de manière instinctive, durcissaient à l'écoute de la voix de Jean-Pierre Elkabbach, qui était déjà âgé. Elle se mettait à faire des confitures de manière compulsive. Entre mes deux mamies, j'ai eu jusqu'à 17 pots de confitures par semaine. J'ai plus bouffé de coin qu'un gros verre. Donc là, Andros un jour a appelé Madonna pour lui dire « Loulou, t'en vends rien, exhibe ton boule afin que les autres seigneurs aussi deviennent des chaudasses et pensent à coucher plutôt que de parasiter le marché des confitures. Parce que le peuple prend les stars en exemple. Regardez-moi, j'adore Pete Doherty. Et ben pour être comme lui, je sniffe hein, de la farine de châtaigne bio de Naturalia parce que je prends soin de moi. Du coup, l'intérieur de mon corps ressemble à un cake. Et Madonna, 61 ans, continue en live à déballer ce corps usé qu'on connaît tellement qu'on le confond avec le nôtre. Il y a encore je cherchais mon clitoris. Donc là, elle est sur le Madame X Tour. Alors, Madame X, c'est son dernier album, sorti dans la même indifférence que celle qui entoure la carrière de Benoît Hamon. Un show intimiste dans de petites salles, c'est-à-dire que si on est devant, on peut même se prendre ses postillons dans la face et choper sa gastro. Ok, c'est gênant si on n'a pris qu'un slip, ce qui est une coutume quand on a plus de 3 ans et demi. Mais ça change d'un autographe à la sortie du spectacle. Seulement, le souci avec Madonna, c'est qu'elle est en retard. Elle a la même vie qu'un TER de la région Rhône-Alpes. Et avant ça, ça passait parce qu'on pardonnait tout aux stars, on les pensait divines. Mais c'est fini, on a compris que c'était juste des êtres humains. Quand Taylor Swift, après le concert, retire ses grolles, ça sent la moufette. Le star system est une illusion. Parce que le Vincent Cassel qu'on vend une de Vanity Fair, c'est pas le même qu'on a ici quand on l'invite. Le vrai, il sent le tabac froid, il se gratte les bourses. Les stars, le public, n'en peut plus. Il veut du vrai. La plus grosse audience à la télé, c'est Capitaine Marlowe. L'histoire d'une gendarme crado qui végète sous sa chapka rongée par les rats. On dirait le biopic du Paris d'Annie Hidalgo. Fini le glamour. Ce que veut le public, c'est de la feuille morte et du vomi. Car on a tous envie de s'identifier au week-end que passe Daniel Morin. Donc Madonna avant, on lui pardonnait ses excès. Ouais, ouais. Mais maintenant, on lui dit, tu vas nous respecter Mamie Rézy. Sans nous, t'es rien, pauvre coche. Ainsi aux États-Unis, ce pays qui dès le 27 octobre nous abreuve de téléfilms de Noël, dans lesquels une trader de Wall Street tombe amoureuse d'un trappeur de l'Arkansas et réalise que la vraie vie, c'est dépecer des castors. Eh ben, un fan de Madonna porte plainte contre elle. Motif, il avait 3 billets pour son live à Miami. 1000 euros de billets. Hein, donc avec ça, il pouvait se payer 400 représentations d'une pièce avec Franck Leboeuf. Live prévu à 20h30. Mais le concert est reporté, Nagui, à 22h30. Or, c'est pas la même chose. Aller dans un club coquin qui fait buffet à 20h30, le patron vous dira il n'y a personne, aide-moi à disposer le céleri rémoulade. Vous arrivez à 22h30, le patron vous dit, vu que la soirée 5 légumes et fruits par jour, dont 20 bananes, a commencé il y a une heure au niveau des salades, je te déconseille de prendre du céleri Moulade.
Pour en revenir à cette plainte, est-elle recevable?
Oui, Nagui, parce que les Américains sont très procéduriers. Ils n'ont pas Julien Courbet sur RTL pour canaliser leur haine de l'autre. Donc la haine du voisin qui est mal taillée, il l'envoie au tribunal. Le plaignant s'explique, il dit que le matin, il doit aller bosser, emmener ses enfants à l'école. Mais là, une fin de show à 1h, ça fait 2h à la maison, couché à 2h30. Donc le lendemain, même si vous êtes Bradley Cooper, vous avez la tête de Gérard Collomb. Et aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, hein. Il faut avoir l'air sain, bien portant. Jean-Pierre Bacri, chez nous, il fait une carrière. Aux États-Unis, il le voit, il l'emmène aux urgences en criant, je crois qu'il est en train de crever. Et c'est vrai que c'est pénible, ces stars qui n'en branlent pas une, et se permet de planter le peuple qui trime. Quand je repense à Aznavour, pour qui j'avais pris des billets, et qui n'est pas venu au prétexte qu'il était mort 3 mois avant, mais j'ai toujours en moi ce rejet du peuple arménien, parce que j'ai tendance à faire des amalgames. Si un jour je me fais agresser par un noir, dans le quart d'heure, je suis en Virginie avec le Ku Klux Klan, hein, avec une tunique et une cagoule. Ou alors juste la tunique si je me suis fait agresser par un métis. Oui, Madonna est une raclure, parce que samedi en live à Las Vegas, ville martyre, puisqu'elle a accueilli en résidence artistique Céline Dion, puis Britney Spears. Elle a répondu à son fan furieux. Elle a dit, il y a quelque chose que vous devez savoir, une reine n'est jamais en retard. Alors attention, cette excuse n'est valable que si vous êtes Madonna, si Albert Algo arrive à la bourre à l'intérieur. Parce que juste avant, il était chez Damar pour le lancement de la nouvelle collection, qu'il a discuté un peu trop longtemps avec Macha Merrill des bienfaits du thermolactyle. Et qui dit, un roi n'est jamais en retard, et il prend la porte. Hein, et c'est ce qui devrait se passer pour Madonna. Elle se prend pour une reine juste parce qu'elle a vendu 335 millions d'albums. Mais enfin, Shime, à 335 millions d'albums près, a la même carrière. Et ben, elle est toute simple. Non, mais Madonna n'a pas compris que c'est le public qui l'a fait reine. À la base, elle n'est rien. Donc, un conseil, cocotte. Si tu penses que t'es une reine, annule la France parce que nous, on n'est pas très conciliants avec ce genre de personnes.
Merci, Jolie Bachereau.
Ah, quand même.
C'est bien quand
je vais garder mon bébé. Je le garde.
Et Tanguy, on t'attend. Ça va pas?
Le mec fait des commentaires.
Il sait chanter en français.
Il la chante en français. Et DJ Tanguy.
Ah, ouais. Je sais pas ce qui m'a
l'air. Il y a une carrière. Ouais,
là, juste de ça.
La manif pour tous. Voilà. Ouais.
J'espère que tu feras ça le 14 décembre à l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand. Tu seras à l'heure, c'est à quelle heure? Tu sais?
20h30.
Je crois 20h30.
Tu joues dans un opéra.
Oui, je joue
dans
l'opéra.
C'est la classe.
On va reparler évidemment de cette fiction pardon qui s'appelle La Forêt d'argent avec Nicolas Duvauchel. Est-ce qu'on peut parler de vos projets avant de revenir à ce qui va se passer ce soir sur Arte le 11 décembre? Vous êtes à l'affiche des Envoûtés.
Oui, de Pascal Bonitzer avec Sarah Giraudeau. C'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Les Amis des Amis de... Blablabla, pardon, j'ai perdu le nom. Super, ça commence bien. Très belle promo. Et voilà, réalisé par Pascal Bonizac, Sarah Giraudeau, il y a Josiane Balasco, Nicolas Maury. Voilà, c'est une histoire un peu fantastique. Voilà.
Et vous, quel est votre personnage?
Moi, je joue un peintre.
Ça va, Nicolas?
Voilà. Oui. Non, j'étais sur la forêt d'argent, là, du coup, là, oui.
Pardon, oui.
Non, mais,
11 décembre avec...
Moi, je joue un peintre dont Sarah Giraudeau va tomber amoureux. Voilà. Et j'ai pu peindre avec un artiste qui s'appelle Patrick Lost, qui est un mec qui habite dans les Pyrénées, qui fait de très, très belles peintures. J'ai pu le rencontrer.
Je vais pas vous aider.
Vas-y.
Non. Je vais pas vous aider parce que je vais aller encore plus loin. Maintenant, je vais aller sur Balle perdue.
Oui.
De Guillaume Pierret. Donc, la diffusion sur Netflix. Est prévu l'année prochaine, c'est ça?
Voilà, avec Alban Lenoir, Ramzy Bedia, Rod Parado, Stéphie Selma, Pascal Arbiot. Je dois en oublier, on est beaucoup. Et c'est un film d'action sur Netflix. Ouais.
Très bien. Ce qui se passe maintenant dans le monde de la culture. Nicolas Duvauchel, vous pouvez, vous aussi, comme la bande, essayer de répondre à cette question. Un nouveau bouton va peut-être apparaître sur Netflix. À quoi servirait ce bouton?
Pour accélérer le temps.
Alors, attendez, 2 secondes. Quoi,
accélérer,
pardon?
Pour accélérer la diffusion de l'épisode?
Non.
Pour arrêter...
Pour programmer un arrêt d'une demi-heure pour faire des pauses, pour arrêter devant la télé.
Tu peux faire des pauses.
Non, protection mineure,
un truc random.
Non.
Changer de comédien. Changer de comédien.
Non.
Ne pas faire en sorte que les épisodes s'enchaînent les uns après les autres.
Ça, tu peux toujours.
Pour ôter tous les génériques.
Ah, ça, tu l'as déjà
une production.
Non, c'est un bouton qui va te permettre de passer quelque chose
de la pub
que tu n'as pas envie de voir.
Une scène de sexe.
Ah, le sexe, la violence, la mort.
Non. C'est dingue.
Les dialogues.
Le fait de voir Kevin Adams.
Non.
Non.
Ça permet d'éviter quelque chose ou de rajouter quelque chose.
Éviter quelque chose.
Évitez que les femmes apparaissent à l'écran.
On est aux États-Unis.
Évitez les clopes.
Évitez de voir de la nudité.
L'alcool.
Non, c'est encore plus dingue que ça.
Trump. Toutes les blagues sur Trump. Voilà, c'est ça.
Exactement.
C'est ça. Si. Oui, tu peux expliquer.
La tête de Nicolas Dubochet.
Je suis complètement choqué. Ça veut
dire qu'il y en a suffisamment dans les séries pour qu'on crée un bouton pour ça.
C'est pas sur tous les programmes Netflix, c'est sur un programme précis. Et tu appuies sur un bouton si tu veux éviter de tomber sur des vannes anti-Trump. C'est dingue. C'est dingue.
Ils font ça en Chine depuis toujours, avec le président en place.
Ça passe pas du tout.
Mais t'as pas l'épisode, donc
ils ont pas besoin de bouton. C'est Lobby Baby sur Netflix. Le présentateur Seth Meyer a collaboré avec la plateforme de streaming pour proposer un outil pour répondre aux critiques affirmant que son spectacle serait trop politisé. Ainsi est né le bouton Ignorer les vannes Trump. C'est une vanne, hein. Pour être clair, le bouton existe, ça fait partie du programme, mais c'est de l'ironie. Voilà.
Okay.
D'accord. Quel comédien très particulier va incarner un rôle dans un film qui s'appelle Finding Jack? Trouver Jack.
Un comédien particulier?
Ouais.
Ah oui, parce qu'il est mort.
Ouais.
Ouais, c'est James Dean.
C'est James Dean.
Finding Jack avec James.
Et d'ailleurs, il y a une levée des boucliers des acteurs américains à ce sujet.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais c'est n'importe quoi.
Nicolas, vous dites quoi?
N'importe quoi. On est plein de comédiens. Pourquoi ils prennent des gens morts pour refaire des films? Complètement con, quoi, les gens. Quoi,
il le recrée numériquement.
Non, mais c'est.
Il sera face à Jean Lefebvre, d'ailleurs.
Et à Sim.
Grâce à des images d'archives. Et la voix est doublée par un autre acteur. Il y a déjà un acteur qui bosse, c'est celui qui va faire la voix. Non, t'es pas d'accord. Okay. Duo de cinéastes qui a récemment lancé la compagnie de production Magic City Film a obtenu l'accord des proches de la star.
Ouais, parce que c'est ça, faut demander à la famille.
Est-ce que la star a donné son accord?
On attend la réponse, en tout cas. Et l'un des réalisateurs a déclaré: nous avons cherché le parfait acteur pour incarner le rôle de Rogan, qui est extrêmement complexe. Et après des mois de recherche, James Dean. Ça vous choque quand même?
Bah oui. Il a pas bien cherché, le mec, quoi, je pense.
Puis si les morts se mettent à piquer le travail des vivants, on n'est pas sorti, parce qu'il y a beaucoup de morts, quand même.
Comment le rappeur Drake a-t-il, qui est l'un des plus grands au monde, comment Drake a-t-il communiqué sur un possible nouveau projet? Il a fait une opération de com totalement dingue.
Affichage incroyable.
Via les réseaux sociaux ou pas? Affichage dans le ciel.
Sur des lieux symboliques.
Sur un lieu symbolique, oui, il s'est occupé de sa ville natale.
Aux États-Unis?
Toronto. Mais qu'a-t-il fait à Toronto?
Il y a
des grands édifices
sur les rues, les trottoirs.
Une opération de com. Je me demande si un acteur a un jour fait une telle opération de com, ou un autre chanteur.
Il a rasé.
Est-ce qu'il
a pris
des risques physiques lui-même?
Ça s'appelle un gros budget, ce qu'il a fait.
Des figurants de partout,
distribuer de l'argent à son effigie.
Il a distribué, oui, mais pas d'argent.
Des billets.
Non.
Des places, des tickets de Willy Wonka pour gagner à la chocolaterie.
Des donuts.
Non.
À manger, à des repas. Non.
Ses albums.
Il a fait livrer à des personnes connues et inconnues de sa ville natale. Il a fait livrer
des pizzas,
des fleurs,
fleurs.
Ah ouais, des fleurs.
Exactement. Il a fait livrer des
toute la ville
à tout pratiquement toute la ville.
Enfin,
à quelques personnes de la ville connues et inconnues. Alors, on ne sait pas très bien. Le seul indice, c'est que toutes les personnes qui ont reçu un bouquet de Drake ont indiqué que c'était lié à More Life Growth Company, qui semble être le nom d'une nouvelle société créée par le rappeur. Drake a lui-même posté le logo de ce nouveau projet ce mardi, sans donner plus d'informations. C'est-à-dire qu'on est dans le teasing du teasing du teasing. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui reçoivent des fleurs au nom d'une compagnie. On ne sait pas ce qui se passe. Opération de com. Vous avez déjà participé?
Super excitant.
On peut pas enlever à Drake d'être un artiste.
Ah oui, non, moi j'aime bien ce qu'il fait, mais bon après voilà. Ce truc de com, moi ça me dépasse un peu.
Déjà la com, ça vous aimez pas trop?
Oui, non, c'est pas mon dada.
Merci d'être venu ici. Merci d'être venu ici.
Mais non.
Voici Monsieur Frédéric Siris.
Alors il y a deux semaines, j'ai joué mon spectacle à Grenoble et vraiment c'était génial. J'ai fait ça le comble tous les soirs, les gens criaient Daniel Morin, je savais pas que vous étiez si souple, cette présence scénique, cette sensibilité qu'on ne perçoit pas forcément de vos chroniques, je vous aime.
T'as plein d'enfants toi, Chiron.
Vraiment, je conseille Grenoble, parce que quand tu travailles à France Inter et que tu vas jouer à Grenoble, c'est un petit peu comme si t'étais Balkany au salon de la fraude fiscale. T'es une rockstar. Grenoble, c'est pile poil notre cœur de cible, une ville d'étudiants, certains au chômage, de profs à la retraite, de gens de gauche. Le maire Éric Piolle est membre d'Europe Écologie Les Verts. J'y étais pendant Halloween. Là-bas,
il fait des trucs très bien.
Il faut des trucs très bien. Ouais. Il a viré la pub du centre-ville. C'est une ville où tout le monde circule à vélo. Grenoble, c'est un peu le Tour de France, mais avec des gens qui se droguent pour aller moins vite. Et j'y étais pendant Halloween là-bas. Les gens, pour se faire peur, ils se déguisent en Édouard Philippe. C'est dire s'ils sont à gauche, quoi. J'ai fait des afters avec des ingénieurs qui avalaient des kilomètres d'alcool. Et ben, je vais vous dire, un ingénieur bourré, ça se met pas à sortir des conneries sur le voile et ça te chante pas la digue du cul à la fin de la nuit, hein. Non, non. Ça te parle de permafrost, de déterminisme social. Là-bas, faut réviser avant de picoler. Leïla, t'as une hygiène de vie de grenobloise. Mais vraiment, vraiment. Toujours est-il qu'à un moment de mon séjour, on est venu me dire que le maire, Éric Piolle, aimerait me rencontrer. Wow. Oh. Alors, je vous le dis tout de suite, à ce moment-là, il n'y a aucune partie de moi qui a trouvé ça normal. Non, parce que moi, je fais des vannes sur scène depuis 20 ans, je suis à découvert le 2 du mois, j'ai plus le niveau pour aider mon fils dans ses devoirs alors qu'il est en CM2. Logiquement, il n'y a aucune raison valable pour qu'un élu de la République veuille me rencontrer. Pour moi, c'est juste une nouvelle preuve que la société va mal. C'est, je ne ferai jamais confiance à une époque qui me donne si souvent la parole. Néanmoins, je me suis dit, bon, ok, il veut me voir, ok, que ferait Guillaume Meurice à ma place? Parce que Guillaume, c'est un peu ma référence en matière de dialogue politico-humoristique.
Carrément.
Oui, pour moi, c'est un peu l'Élise Lucet du LOL, tu vois. Donc, là, et en même temps, une fois, j'ai voulu m'inspirer d'Alexis Le Rossignol, on m'a enlevé 50 euros sur ma fiche de paie, donc j'ai dit, je recommence plus. Donc, je me suis dit, le maire, je le rencontre, il faut pas qu'il m'endorme, parce qu'il sait bientôt la campagne électorale, je vais lui parler d'un sujet qui fâche, tu vois. Comédien de France Inter, tu vois, je dénonce, quoi. Parce qu'en arrivant à Grenoble, il y a quand même un truc qui m'a choqué. Je suis tombé sur un campement de 80 demandeurs d'asile juste à côté de la gare. Une quinzaine de tanks quechua alignés le long de la voie. Alors au début, j'ai pensé à une opération publicitaire de Décathlon, et puis je me suis souvenu que le maire avait fait interdire la pub en centre-ville, et c'est là que je me suis dit, les publicitaires, ils sont forts quand même. Hein. Il interdit la pub en centre-ville, et ben le lendemain, les publicitaires, ils sponsorisent les demandeurs d'asile. Donc, moi je suis arrivé devant le maire, quoi, j'étais remonté, j'avais mon petit poing levé comme ça, je lui ai dit qu'en tant qu'élu de gauche, ça la foutait mal. J'ai parlé du pays des droits de l'homme, tout ça, je me suis énervé, enfin grosso modo, j'étais en train de lui chanter une chanson de jazz. Et là, il m'a regardé très calmement. J'ai l'impression que c'était pas la première fois qu'il entendait ce couplet. On aurait dit Nagui, hein, vous Nagui, dans N'oubliez pas les paroles, quand vous savez un truc que le candidat sait pas. T'étais genre, vous êtes sûr? Vous bloquez ces paroles? Hein? Et là, moi, je sais, j'ai dit, ouh, me rappelle Nagui quand même. Là, j'ai pas confiance. Et c'est ça là, il me dit,
je
voulais
bien,
vraiment aller là-dessus. Et là, il m'a bien calmé. Il m'a expliqué que tout demandeur d'asile dépend de l'État. Il y a même une loi pour les gens qui sont dans la rue, l'article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles qui dit très clairement « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. » Mais que l'État a décidé de faire comme Kim Kardashian avec sa principale source de revenus, s'asseoir dessus. En gros, voilà comment ça se passe en ce moment entre les mairies et l'État. Oui, bonjour, monsieur Macron. On se disait avec les autres maires, vu qu'on n'a plus trop les moyens, hein, rapport aux économies, qu'on doit toujours faire un peu plus, et puis surtout vu que c'est un peu votre travail, en fait. Est-ce que par hasard, ça vous dirait pas de respecter la loi en hébergeant ces familles? Non, parce que là, en plus, ça devient un petit peu chaud pour nous, parce que les demandeurs qu'on a hébergés, vous allez rire, hein, ils sous-louent leur tente à ceux qui sont dehors. Oui, c'est bien, je sais, c'est l'esprit d'entreprendre, tout ça, les pauvres qui exploitent des pauvres, le libéralisme, youhou! C'est juste pour que ceux qui sont dehors, eh ben, ils commencent à se prostituer pour le payer, le loyer de la tente. Oui, je sais bien, mais là, ça va peut-être un petit peu loin dans le don de soi. Hein. Alors, je sais bien que vous avez conseillé aux pauvres de se sortir les doigts du cul, mais on n'avait pas compris que c'était pour y mettre autre chose, en fait. Oh. Tout ça pour dire que quand un élu t'invite à sa table, eh ben, c'est pas forcément pour te montrer qu'il a du pouvoir, mais aussi des fois pour te montrer combien il est impuissant.
Ah, yes. Tu l'as bien aimé, lui, hein.
Oui.
Je crois que c'est à Grenoble où les transports sont gratuits.
Transports en commun,
oui.
Ça
et oui, les cantines bio et pas de viande une ou deux fois par semaine, je crois.
Non, mais ils sont vraiment à la pointe. Mais par contre, pour ça, c'est une catastrophe.
Loi, ouais, pas,
c'est une catastrophe. Et en fait, si même c'est la même chose à Paris, je le dis juste pour si les campements ne sont pas rejetés plus loin, c'est parce qu'en fait l'État dit si jamais ils vous gênent, vous faites un arrêté d'expulsion, vous les mettez aux limites de la ville et après ils se débrouillent. L'État dit ça en ce moment aux mairies pour gérer.
Pour éviter d'assumer sa responsabilité.
Exactement. Exactement.
Comme la loi
tout peut changer, tout peut se décider au niveau européen, mais ils ne veulent pas le faire.
Sinon, ça va.
Parlons.
Je voulais dire parce que ça
non,
va.
Non, tu as raison. La forêt d'argent, c'est ce soir sur Arte. Tu en as pensé quoi, Leïla ?
Non, moi, c'est tout ce que j'aime comme film, comme histoire, comme sujet. De se mettre aussi face à nos contradictions, de voir qu'on appartient à cette Europe, qu'on espère être une Europe humaniste et qui ne l'est plus depuis un petit moment. On a parlé pour la crise des migrants. Et bien là, on le voit aussi concrètement, les ravages ont l'air moins violents, mais en réalité, ils le sont tout autant.
Daniel Morin.
Moi, j'étais surpris de savoir que la Roumanie était un vrai pays en regardant ce film. Moi, je crois que c'était un truc pour les vampires, les loups-garous. Non, merci Arte.
Tanguy Passero.
Rien de plus, ouais. J'ai hâte de le voir et de regarder Arte pour une fois, donc ça va me faire du bien.
Alexis Rossignol.
Moi, je suis allé en Roumanie il y a quelques années, je suis allé en stop, et heureusement qu'il n'y avait pas d'autoroute, parce que sinon, t'es jamais pris.
Voilà. Donc, c'est ton souci.
Bah, comme disait le père Albert tout à l'heure, c'est un formidable film sur les rapports de domination dans le couple au niveau économique et au niveau européen.
Les rapports, ouais. Domination et les rapports de force et de pouvoir, ouais. Frédéric Sériste.
Et moi, j'aime beaucoup la gestion syndicaliste de Nicolas Diochel quand il a un problème avec
un
supérieur hiérarchique qui l'insulte. Voilà, j'aime bien.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Nicolas Diochel, que l'on dise après avoir vu La Forêt d'Argent?
Moi, je sais pas, que ça aille plus, c'est tout, un peu d'émotion, et puis que ça aille plus, et que ça fasse réfléchir un peu sur l'Europe dans laquelle on s'engouffre, là, malheureusement, cette Europe qui n'est pas l'Europe sociale qu'on nous a vendue, mais bien l'Europe libérale, voilà. Malheureusement.
C'est ce soir sur Arte, La Forêt d'Argent. Des excuses à présenter, Daniel.
Absolument. Morin. Désolé pour le toujours zen Nicolas Duvauchel, qui, on l'a entendu ce matin, s'est battu pendant ses études, peut se battre dans le métro, a hésité à castagner des légionnaires. Franchement, on vous a mal reçu ce matin. On vous a présenté personne à tabasser. Du coup, si vous voulez profiter avant le départ, Alexis Rossignol, c'est pour vous.
Cadeau.
Alors, désolé pour tous les oui et tous les non qui, ce matin, ont une vie un peu agitée dans la bouche de Nicolas Duvauchel. C'est vrai qu'on était un petit peu perdus. Je pense qu'une bonne baston vous ferait le plus grand bien, Nicolas. Alexis, s'il te plaît, si tu peux venir voir l'invité. Désolé pour tous les préparateurs en pharmacie qui ont été assimilés à des testeurs de suppos. Il n'y a pas de sous-métier, mais comme l'a sous-entendu Nicolas, des fois, hein, on en a plein le cul. Désolé pour Madame Nagui, qui, on l'a appris ce matin, est réveillée quotidiennement par un moteur qui tire son mari du plumard. Ouais, c'est le moteur du treuil. Alors, j'ai une solution. Passez votre nuit avec Nicolas Duvauchel. Un réveil matin lui suffit.
Merci Nicolas. Merci. À ce soir sur Arte, avec La Forêt d'Argent. Lundi, nous parlerons du film Les Misérables, avec Damien Bonnard, Alexis Valenti et Djibril Zonga. Vous l'avez vu, Le Misérable?
Film. Non, mais je vais sublime. Le voir, mais Pilage.
Sublime, voilà. Sublime, qui réalise, ouais, ce film.
Bien.
Ça sera lundi dans cette bande originale.